l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. C'est une vision triste pour un jour de Pentecôte que de voir ces os tout secs dans la belle vallée. C'est une vision de jugement. Pourquoi tous ces os dans les champs, par milliers, par millions? Je pense que c'est une bataille et je pense que c'est une défaite. Ces os ne sont pas enterrés parce que peut-être qu'il n'y a plus personne pour les enterrer, personne pour raconter l'histoire de cette défaite. Dans les blocs des camps de concentration, souvent les femmes, les hommes disaient à ceux qui paraissaient un peu costauds, surtout si tu sors de là, n'oublie pas de raconter notre tragédie. Et pour être sûr, on mettait des papiers dans la terre que certains ont retrouvés des années plus tard, qui disaient « Voilà ce que nous avons subi ». Il n'y a personne pour raconter l'histoire. Et voici qu'à la fin de ce texte, tout se transforme en vision d'espérance. La vie refleurit. On aimerait que notre vie refleurisse comme les pommiers au printemps. Mais au départ, c'est un peuple anéanti, incapable d'aucun geste, d'aucune parole, d'aucune prière, pas un cri. Ils sont morts, desséchés. Mais le Seigneur accomplit ses promesses pour un peuple anéanti, pour une vie anéantie. Dieu ne s'arrête pas à ce qui est trop grand pour nous. Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand que nos péchés, plus grand que nos souffrances, plus grand que notre propre mort. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Dieu dit, ça, c'est le raisonnement de la maison d'Israël. Ils étaient dans le désespoir. Et ceux qui disent cela, ce sont des déportés en Irak, Syrie, Babylone. Il y a 2600 ans. L'histoire n'est pas trop loin de nous. Ce sont des déportés qui pleurent, qui sont desséchés dans leur cœur, parce que le temple a été incendié, la ville de Jérusalem a été rasée, les habitants ont été exterminés et les chefs d'Israël sont en déportation, loin de leur maison. Alors ils pleurent, nos os sont desséchés. Les os représentent la force vitale. Ce sont nos os qui nous tiennent debout. Et quand les os sont desséchés, il n'y a plus de force. On est anéanti. On ne tient plus sur rien. On ne tient plus à rien. Comment nous voyons-nous nous-mêmes? Anéantis, desséchés, ayant manqué sa vie? Comment Dieu nous voit? Dieu ne nous voit pas de la même façon. Parce que lui, Dieu voit d'avance qu'il va nous redonner des nerfs. Il va nous redonner du muscle, des forces, de la vie, la résurrection. Qui peut commencer, qui commence ici et qui s'achèvera dans l'apothéose du retour de Jésus. En lisant ce texte, nous pensons au livre de la Genèse. Quand Dieu crée l'homme, avec la poussière, il crée d'abord le corps. Et ensuite, il met un esprit, un souffle dans le corps. C'est ce que vous avez en vous et en moi. Donc la mort est passée dans cette vallée. Et la mort, c'est toujours une conséquence d'un éloignement de Dieu. Mais Israël le sait. Pendant des mois, non, des dizaines, des centaines d'années, Dieu est patient avec vous, avec moi. Pendant des centaines d'années, Israël a refusé d'écouter la parole de Dieu. Et la conséquence, c'est qu'ils se sont retrouvés éloignés et l'adversaire les a détruits. Mais la vie rejaillit. Le Saint-Esprit revient et apporte beauté, harmonie. C'est l'espérance des chrétiens. C'est l'attente du monde aujourd'hui. On attend un changement, un plus dans notre vie. La Bible nous montre que c'est l'Esprit du Christ et l'Esprit de Dieu qui ressuscite, qui donne la vie. Le Christ a été ressuscité par le Saint-Esprit dans son tombeau. Et dans cette histoire, nous voyons l'Esprit qui ressuscite tous ces os, ces morts, ces cadavres. Donc Ézéchiel est un prophète qui a été envoyé en Irak d'aujourd'hui pour aller parler aux déportés qui sont tous dans les larmes et qui se demandent, mais que se passe-t-il? Notre espérance est détruite, on ne sait plus ce qu'on va devenir. Et Ézéchiel est allé parler à ces hommes vaincus, condamnés, qui ne peuvent rien faire. Aucun effort personnel ne peut les sortir de là. Même sincères, ils ne sortent plus de leurs conditions. Ils sont anéantis, comme vous peut-être, parce que vous avez dit, je ne peux plus revenir comme j'étais avant. J'ai perdu quelque chose de ma vie. Personne ne me rendra ce que j'ai perdu. Seul Dieu peut tirer la vie à partir de la mort. Seul Dieu peut transformer le mal en bien, car son pouvoir de création a fait jaillir le monde, les animaux, les plantes, l'être humain. Et cela pour nous montrer que si les choses vont mal, Dieu peut les prendre et les conduire autrement. Mais quelle vision pour Ézéchiel ! Que Dieu amène dans cette vallée, je ne sais où. Quelle vision pour Ézéchiel de voir des ossements, un peuple vaincu, un ossuaire comme à Verdun, des os dispersés. Et le Seigneur conduit Ézéchiel à regarder tout autour des os, à faire le bilan. Regarde bien. Tout est sec. Regarde autour de toi. Regarde ces os. Constate toi-même. Ézéchiel écrit, ils sont complètement secs. Il n'y a qu'un miracle qui peut remettre les choses dans la vie, pour eux et pour nous. Dieu pose une question formidable à Ézéchiel. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Ézéchiel est embarrassé. Ézéchiel est prudent. Il croit dans la résurrection. Mais il ne prend pas parti. Si Dieu me disait ce soir, Pasteur Leprat, est-ce que tu crois que tu vas vivre 160 ans? Ça ne vous fait pas sourire? Je dirais la même chose. Je dirais, Seigneur, ça c'est ton affaire, tu le sais. Ézéchiel répond avec une parole où il ne s'engage pas. Tu peux, Seigneur, mais toi tu sais tout. Ézéchiel ne sait pas ce que Dieu va faire. Comme parfois dans ma vie, je ne sais pas ce qu'il va faire. Vous ne savez pas ce qu'il va faire avec vous, vos enfants, vos petits-enfants. Mais il fait confiance à Dieu, tu le sais. Parce que Dieu peut créer, il peut recréer. Dieu sait tout ce qu'il peut faire. Il fait ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Ézéchiel ne se mouille pas trop, pardonnez-moi l'expression. Il dit, Seigneur, pour les faire revivre, toi tu sais tout. Amen. Il s'arrête là. Et Ézéchiel va annoncer cette nouvelle à ses cadavres, à ses os. Il va parler aux morts. Ça paraît absurde. Il va parler à des morceaux d'os, de tibia, de cheville, de crâne, répandus sur la terre de la vallée. Ça paraît absurde. Comme parfois les promesses de Jésus nous paraissent absurdes. Quand Jésus dit « L'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et ils en sortiront », ça paraît absurde. Et pourtant, c'est la vérité. La vérité qui tient aujourd'hui le monde dans l'espérance et la foi. Fils de l'homme, annonce, prophétiser, ça veut dire « parle pour moi ». Parle pour moi à ces os. Cherchez pas dans cette histoire des précisions anatomiques, des nerfs, de la chair, de la peau. On a plus que ça en nous, hein. C'est compliqué l'être humain. Cherchez pas de précision. Pour moi, le message là, c'est surtout de nous dire sur nos vies brisées, desséchées, je mets mon esprit. Dans vos cœurs desséchés, je mets mon esprit et vous allez vivre et vous allez continuer et vous allez vous battre et avancer avec l'aide de Dieu. Ézéchiel a annoncé, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, du Seigneur. C'est la parole d'Ézéchiel, la parole de Dieu qui a permis le prodige. Ça a été comme un bruit pour ses os. Ils ont entendu ce bruit, cette parole-là, et tout à coup, ils se sont mis en mouvement. Tibia et péroné, cubitus et radius, cinquième vertèbre, quatrième, tout ensemble, là, tout le monde s'est mis en marche. C'est une vision, bien sûr. C'est une image, bien sûr. Mais c'est pour nous dire la puissance de la parole de Dieu qui peut mettre en mouvement ce qui paraît inerte, sans vie, des os desséchés. Et les morceaux se rassemblent. Et l'homme se reconstruit. Mais il manque dans l'homme l'esprit. La Bible le dit, il n'y avait pas d'esprit en eux. Et tant qu'il n'y a pas en nous un esprit, tant qu'il n'y a pas en nous un cœur d'amour, un cœur de paix, tant qu'il n'y a pas en nous un cœur de pardon, on est mort. Sans amour, on est mort. Alors, le Seigneur a à nouveau annoncé sa parole. Esprit, viens des quatre vents et venez dans ces hommes qui se reconstruisent. Et l'Esprit est venu en eux. C'est-à-dire un cœur neuf, un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, un cœur qui pardonne, qui aime, qui croit, qui est joyeux. Ils se sont levés sur leurs pieds. C'était une armée très, très nombreuse, dit la Bible. Regardez bien qui a fait ces choses. Pensez à vous, qui le soir surtout pleurez sur votre vie, sur votre famille, sur votre passé. Pensez à vous, qui a créé cette armée qui est sortie là de la terre? c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous l'avez. Si vous ne l'aviez pas, on pourrait vous la donner. C'est la Bible. Dieu ne joue pas avec nous. Notre vie est trop courte. La Bible, c'est la voix d'Ézéchiel, c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Jésus pour nous faire revivre. On a besoin d'une parole surnaturelle pour vivre. Pas les discours des politiques, pas les discours des prophètes de ce monde, des faux prophètes ou des hommes ou des philosophes. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit de Dieu pour vivre. À la fin de cette histoire, j'ai constaté que les ossements étaient enterrés. Au début, je les imagine sur la surface du sol, dans la vallée, des milliards de morceaux. Et à la fin du texte, nous voyons qu'ils sont dans des tombeaux. Ça veut dire prisonnier. Ça veut dire enfermé. Et si ces os commencent à bouger, ils sont dans des tombeaux. Ils ne peuvent pas sortir. Ça représente la déportation à Babylone. Ça représente nos vies quand on dit « je ne pourrai plus m'en sortir ». J'essaye toutes sortes de solutions, j'essaye toutes sortes de méthodes, mais je crois que je ne m'en sortirai jamais. On est prisonnier. Israël, dans sa déportation, mais ça fait penser à chacun de nous, croit avoir tout perdu. Son pays, les chants de la fiancée et du fiancé, les rires des enfants, les oliviers, les pommiers en fleurs. Il croit qu'il n'y a plus d'espérance pour lui. Mais Dieu le remet debout et lui rend tout. Je vous rétablirai dans votre pays. Vous retournerez et vous vous réjouirez et vous mangerez et vous boirez avec l'espérance que le matin sera plus beau et le soir toujours beau. Littéralement, mot à mot, il n'est pas dit « je vous rétablirai, je vous ferai reposer dans votre pays ». Le repos est promis par Jésus. Après les blessures de l'existence, je pense que nous arriverons dans le ciel tout griffés, tout blessés, tout meurtris, douloureux, atteints au plus profond de notre conscience. Mais quand nous arriverons dans le royaume de là-haut, je crois qu'il est dit, le Seigneur essuiera nos larmes. Il n'y aura plus de deuil, de cris, de douleur. Je vous ferai reposer, je vous rétablirai, je vous remettrai dans votre bonheur. Avez-vous remarqué que Dieu dit toujours « Ô mon peuple ». Ce qui veut dire que ce peuple d'Israël qui a été éparpillé dans cette histoire, il n'est pas rejeté par Dieu. Dieu ne rejette personne. Dieu fait-il l'être humain pour jouer comme on joue avec une poupée de chiffon que l'on ne voudrait plus ? Dieu est trop amour pour rejeter quiconque. Et je crois qu'ici, en disant « Ô mon peuple », il veut dire à Israël « Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas rejeté, tu n'es pas méprisé, tu es toujours mon peuple, vous êtes toujours des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, aimés de Dieu, appelés par Dieu. » Mais peut-on réparer l'humain à ce point ? Peut-on réparer l'humain qui a dépassé parfois des limites dans la vie, allant jusqu'à s'auto-détruire par la drogue, allant boire du poison, comme il y a une centaine d'années, on s'exposait pour avoir la tuberculose parce que ça faisait moderne. C'était c'était chic, quoi. Et on mourait quelques mois plus tard. On dépasse des limites. Aujourd'hui, en jouant avec la guerre. Mais le Seigneur nous a promis un sauveur qui nous délivrerait de tous nos ennemis. La dépression nerveuse est un ennemi. Le découragement, la tristesse de l'existence, les échecs de la vie, ce sont des ennemis. La Bible dit dans le livre de l'Évangile de Luc, « Je vous délivrerai de la main de vos ennemis. » C'est signé Dieu, c'est signé votre Père qui vous aime, c'est signé votre Sauveur qui vous a choisi et qui vous recherche jour et nuit. Dieu ne travaille pas seulement dans les petites choses de la vie, les choses ordinaires, les choses simples. Il travaille aussi dans l'impossible. Là où on se dit, il n'y a plus d'espoir pour lui, il y a encore de l'espoir pour Dieu. Il travaille dans les choses impossibles que j'appelle la renaissance, la résurrection, la guérison, le salut. Mais les choses ordinaires, j'en parle, c'est quand même extraordinaire, non? Se lever le matin, c'est rien. Mais pour moi, c'est extraordinaire. Respirer, manger, dormir, c'est extraordinaire. Mais Dieu s'occupe de l'ordinaire et de l'extraordinaire. Et Dieu ne donne pas des espérances trompeuses quand il dit « Je vous ferai sortir de vos sépulcres ». Israël dit « On ne peut pas, on est enfermé. On ne peut pas, il ne reste plus rien de nous. On ne peut pas, nous sommes desséchés. On ne peut pas, on n'espère plus. » Dieu dit « Je vous ferai sortir de vos sépulcres de dépression, de découragement. » Courez pas tous les prophètes du monde, « Je vous ferai sortir. » La parole de Dieu s'accomplit certainement. Amen. Alors, vous ne trouvez pas que cette histoire, elle est à l'opposé du paradis? Moi, je dis que dans la Bible, il y a deux points extrêmes. Le paradis et la vallée des ossements desséchés. Une question. On se rapproche le plus de quoi? Du paradis, où Adam et Ève jouaient avec des petits lions et des gros éléphants, où il n'y avait pas de disputes, pas de larmes, on ne se chamaillait pas? Ou alors la vallée des ossements desséchés? On se rapproche le plus de quoi? J'ai l'impression qu'en regardant l'histoire du monde d'aujourd'hui, que l'on se rapproche le plus de la vallée des ossements desséchés. Même au niveau individuel. On est chez soi le soir, triste, à pleurer. Pas vrai? Mais Dieu a dit dans cette histoire, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. » Alors, pour conclure, que faut-il faire, pasteur, pour sortir de la vallée des ossements? Premièrement, peut-être faire le tour. Vous avez vu, Ézéchiel, Dieu lui a dit de faire le tour des os pour regarder, bien regarder, s'il y a encore de l'espérance, naturellement. Il faut peut-être faire le tour de sa vie, faire le bilan, faire le point. Est-ce que je vais m'en sortir? Deuxièmement, peut-être qu'il faut confesser, avouer, dire. Israël disait « Notre espérance est détruite, notre espérance est détruite, nos os sont desséchés. Je suis seul au monde, mes enfants m'ont abandonné, je n'ai plus personne à qui me confier, je souffre dans mon corps et dans mon cœur, il faut confesser. » Comme Jaïrus qui vient voir Jésus pour lui dire « Ma petite fille est à l'extrémité. » « Viens, elle va mourir, viens vite. » Et peut-être, troisièmement, il faut écouter la parole de Dieu, qui n'est pas une parole de condamnation, jamais, mais une parole de promesse. Je vais faire entrer un esprit en vous, un courage nouveau, une joie que vous n'avez plus depuis des années, et vous vivrez. Et vous vivrez. Il faut écouter la parole de Dieu et la garder dans son cœur quand la tempête souffle. Et quatrièmement, il faut connaître ce Dieu qui nous tend les bras et qui va nous sortir de nos tombeaux, de nos larmes secrètes qu'on ne dit à personne, de nos cauchemars, de nos peurs. Il faut connaître ce Dieu. Il est dit dans cette histoire, « Quand je vous aurai sorti de vos tombeaux, vous saurez qui je suis. » Qui je suis ? Mais qui es-tu, Seigneur ? Tu es le Dieu qui est descendu à notre place dans la vallée du désespoir, afin que nous en sortions. Un seul est mort pour tous, Jésus-Christ. Un seul a pris notre place dans la condamnation qui devait nous revenir, Jésus-Christ. Un seul a pris le châtiment qu'on méritait tous, quelque part, Jésus-Christ. Un seul est allé dans le tombeau pour nous sortir de notre tombeau, Jésus-Christ. Un seul peut nous délivrer de ce qui est plus fort que nous, Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous donne une journée de Pentecôte où l'Esprit de Dieu va souffler sur vous pour enlever les feuilles mortes. On a tous des feuilles mortes. Mais quand le printemps vient, avec la sève dans les arbres, les feuilles mortes tombent toutes seules. Il n'y a pas besoin de les secouer. Elles tombent toutes seules. Ces feuilles mortes qui ont résisté à tout l'hiver, à toutes les tempêtes, elles tombent toutes seules avec la sève qui monte dans les arbres. Eh bien, mes amis, avec la présence du Christ en nous, les feuilles mortes vont tomber toutes seules. Ce qui est mal, mauvais, impur, incorrect, triste, va tomber tout seul. Que le Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Amen. Je prie que le Seigneur vous parle à travers cette histoire et qu'il envoie sur vous la parole de libération. Prions ensemble. C'était une grande armée que tu as montrée en vision à Ézéchiel pour nous dire « Ainsi je ferai avec tout homme qui entend ma parole, qui croit dans ma parole et qui reconnaît que sans moi, il ne peut rien faire. » C'est un message qui s'adresse à tous les êtres humains. Alors ce message, Seigneur, porte-le dans le cœur de cette femme, de cet homme qui est aujourd'hui abattu, accablé, emprisonné dans ses erreurs, dans ses égarements, dans ses mauvais aiguillages. Envoie ce message libérateur. J'ouvrirai vos sépulcres de tristesse, de péché, de désolation, de maladie, et je vous en ferai sortir. Quel message de libération pour nous. Seigneur, bénis les familles que nous représentons. Bénis la vie que nous avons eue et celle qui est encore à venir sur cette terre. Change les ténèbres en lumière. Change la mort en vie par Jésus-Christ, le Seigneur, et par l'Esprit de Dieu qui agit en tout être humain, en tout être humain. Merci Seigneur. Amen.